Bonjour, je m'appelle Ben Hamidou et depuis toujours, mon cœur bat au rythme de Molenbeek. Molum, comme certains l'appellent. Mes parents sont arrivés ici en 1958. Vu de mon berceau, ça ressemblait juste à un long voyage. Mais il paraît qu'on appelle ça, Zemek, une vague migratoire. J'ai joué dans ces rues, frouchelé. Je me suis marié ici. Alors si vous le permettez, je serai votre guide tout au long de cette balade sonore. Ce détour. Un détour n'est pas un audio guide classique. C'est une bande son pour votre balade. Une aventure à la découverte d'un quartier et de ses habitants. Vous suivrez le rythme de mes pas et de mes indications. Surtout, ne traversez que quand je vous invite. Pour vivre une balade sonore, il faut se laisser aller à son rythme, à sa musique et oublier ses points de repère classiques. Pour découvrir Molum, il faut s'y perdre, s'y laisser emporter. Vous entendrez le rythme de mes pas et vous marcherez au même rythme que moi. Faites-moi confiance. Nous ne nous perdons pas. Ah, mon Molum est un éternel mouvement. Et pour se rendre compte de ce qu'il est en train de devenir, il faut laisser ses clichés au vestiaire. On ne comprend pas le présent avec des schémas du passé. Il paraît que Molum existait avant Bruxelles, qu'il est le berceau de la ville. Et en même temps, c'est un village. On ne peut pas le réduire à une seule définition. Même les noms de ses quartiers reflètent le monde entier. Ici, en quelques minutes, on peut voyager de Marrakech à Manchester, en passant par Chicago et Bruxelles. Bien sûr, ce melting pot est parfois en ébullition. Mais il est aussi le berceau de ce bruxellois zinécobâtard magnifique, dont la culture surréaliste s'enracine dans le mélange. Ceci n'est pas un film. Bienvenue dans ma réalité. Quelques remarques préliminaires avant de commencer, si vous le voulez bien. Je vous indique le chemin à chaque coin de rue. Si vous avez un doute, il suffit de revenir à la plage précédente sur votre lecteur MP3 et de suivre mes indications à partir du coin de rue précédent. Respectez toujours le code de la route. Attendez-moi à chaque coin de rue. Et ne traversez une rue que si je vous y invite. Mesdames, messieurs, préparez-vous tout simplement à vivre une expérience nouvelle et paisible, escortée par le meilleur des guides. À chaque coin de rue, nous irons à la rencontre des héros de ce quartier, à la fois simple, libre et hors du commun. On peut même commencer ici, au foyer, avec l'interview de quelqu'un que je connais personnellement, votre serviteur, moi. Alors le foyer qui est un lieu, au niveau associatif, il faut être honnête, un des premiers ça a été le foyer et la maison de quartier Bonnevie, les tout premiers. Toutes les maisons de quartier n'existaient pas, ça n'existait pas.
Le foyer a une offre, maison de femmes, maison de jeunes, service social, l'atelier de quartier, et donc les gens se voient. Donc le foyer a commencé en 69, près de la gare du Nord, le quartier Nord. Et alors a trouvé cette maison ici que vous voyez, hein. Ça c'est les années 70.
Le foyer est né comme maison de jeunes.
Où des enfants venaient pour ne pas traîner dans la rue et trouvaient de la soupe, pouvaient regarder les films. Et donc faut voir ça dans ce temps-là.
Et qu'il y avait une particularité magnifique à l'époque avec nos yeux d'enfants, c'est qu'à l'intérieur même du foyer, il y avait un mini zoo et il y avait un grand lion. Un grand lion dans une cage.
Avec des singes, avec des perroquets, tout ça.
Il y avait aussi un loup. Et pour nous, c'était, juste après avoir vu Mowgli à l'époque, c'était, avec nos yeux d'enfant, c'était génial.
Le foyer, c'est un grand SBL avec des différents services.
À la fin des années 70, a commencé beaucoup d'activités dans tout ce que c'est formation et enseignement pour jeunes. Donc, à part dans la malle, on a mis sur pied à moitié des années 80 une maison où étaient abrités les services sociaux, Welco, et il y avait aussi les services juridiques.
Il y a le service de consultation, mais on a aussi un service de médiation interculturelle. Tout ce qui est administratif, on peut les aider au service social ensemble avec une assistante sociale.
Et c'est aussi une spécialité du foyer, c'est aussi de faire des projets de cohésion sociale. Et puis, ce qu'on doit dire, une particularité pour le foyer, c'est que nous avons eu toujours un esprit pionnier. Donc, on a toujours commencé avec des projets qui n'ont pas encore commencé. Alors, un des derniers projets que je veux mettre sur pied, c'est une maison de dialogue. Donc, sera située à la rue des Ateliers numéro 17. Et on pense aussi de pouvoir intégrer dans cette maison aussi un musée et de l'immigration interactive. Donc, on veut vraiment faire une maison vivante pour tout habitant de Molenbeek, mais aussi pour des habitants qui viennent d'autres communes et aussi d'autres villes d'Europe et du monde. Les messages qu'on veut faire avec ces balades, c'est d'abord apprécier ces communes, essayer d'élever votre regard un peu et surtout regarder les capitales sociales avec qui vous venez à la rencontre, avec un sentiment de découverte, et dites-vous qu'est-ce qu'il y avait ici il y a 20 ans et il y a 30 ans. Je peux vous dire que les quartiers il y a 20 ans étaient un quartier lugubre où les gens ne se sentaient pas bien, et je vous défie maintenant à faire votre promenade et à voir des visages qui sont rayonnantes. Je ne dis pas que tout le monde est super content, mais il y a une certaine joie de vivre que vous ne rencontrez pas dans d'autres communes. Et à la fin de cette promenade, j'espère que vous sortez de Molenbeek avec quelque chose en plus dans votre tête et dans votre cœur.
Allez, assez parlé les amis. Allons-y, sortez du foyer et attendez-moi sur le pas de la porte. Ok, nous y sommes, juste devant la porte du foyer. En sortant du foyer, tournez à gauche et marchez dans la rue des Ateliers. Attention, marchez pas trop vite. Bon, ne marchez pas trop lentement non plus. Entrez dans le rythme de mes pas. Faites un avec moi. Ma voix, mes pas, et surtout, ouvrez les yeux et les oreilles. Bienvenue à Molenbeek.
Il y a beaucoup d'histoires dans Molenbeek.
Molenbeek, c'est vraiment un village qui a beaucoup changé, qui a beaucoup bougé et évolué.
Ah oui, ça a changé et ça va continuer à changer.
Molenbeek-Saint-Jean.
Ça a toujours été un secteur de migration. En tout cas, je parle du vieux Molenbeek historique.
Mais il faut bien savoir que Molenbeek-Saint-Jean est une commune dont les origines sont très anciennes, plus anciennes que Bruxelles.
Ça, j'aime bien. Donc, peut-être que c'était une légende, mais moi, j'aime bien les légendes. C'était qui le premier, Molenbeek ou Bruxelles?
Molenbeek.
Oui, Bruxelles, Molenbeek.
Mais nous, on connaît mieux Molenbeek
que Bruxelles.
1080 volumes.
C'est un quartier qui justement a gardé cette trace d'histoire et à partir de là, il a une âme. Vous trouvez dans le vieux Molenbeek un tissu qui rend ce caractère tout à fait humain, intéressant, chaleureux.
Molenbeek City.
Mais au niveau des lieux comme ça qui restent, je dis toujours, si les murs pouvaient parler, ce serait extraordinaire.
City Mall.
Sur votre droite, vous apercevez la petite rue des Courtois. Traversez prudemment et empruntez cette petite rue sur son trottoir de droite. Devant vous, déjà quelques vestiges du passé industriel de Molenbeek.
Et surtout, mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, Molenbeek est une commune historique qui a été une des communes les plus riches de Belgique au début du siècle. On l'appelait la petite Manchester.
C'était une ville d'ouvriers, vu le canal.
Ex-petit village, et puis avec les révolutions industrielles, la vapeur, le canal, le chemin de fer, c'était truffé d'industries, d'ateliers, d'arrière-maison. Donc c'était très très besogneux. Et s'est retrouvé tout un bâti assez extraordinaire, mais au niveau du patrimoine, on commence à le découvrir, plus à voir avec le monde du travail. Donc architecturalement, je ne veux pas dire que ça brille, mais c'est intéressant au niveau de la perspective du travail. Pourquoi les rues sont comme ça, comment les parcelles ont été fractionnées.
Au bout de la rue, vous arrivez rue des Courtois. Tournez à gauche, traversez la rue et continuez la rue des Courtois sur son trottoir de gauche. Devant vous, vous apercevez l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek.
À l'origine, c'était l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek qui est faite sur base d'une source sacrée dédiée à la déesse Freya, une déesse germanique. Je pense avec des forces magiques. C'est les chrétiens, comme ils ont fait partout, et ils ont christianisé cette source. Ils ont remplacé Freya par Gertrude.
C'est en fait l'abbaye de Nivelles, avec Sainte-Gertrude. C'est la statue à l'église qui est venue fonder sur le Molenbeek, le ruisseau du Moulin, à l'époque, dans les années 900, un refuge. Ça a été un lieu de pèlerinage avec une source. Et donc, depuis ses origines, ce refuge a été un centre où autour s'est placée alors toute une population plutôt rurale, dans ces prairies, grand marécage de la Seine, et qui est devenu les maraîchers de Bruxelles, qui allaient vendre leurs choses en passant porte dans Bruxelles le matin tôt. Et donc, c'est une histoire de génération. Là, on est parti pour 3 heures si j'essaie de rattraper tout ça.
Au coin suivant, tournez à droite. Traversez la rue des Courtois et engagez-vous sur le trottoir de droite de la rue du Ruisseau, Beekstraat, en flamand naturellement.
Oui, pour le néerlandophone de Molenbeek, c'est assez évident parce que c'est un nom très commun. Donc. C'est le ruisseau du moulin.
Parce que c'est le Molenbeek, le ruisseau du moulin, qui descendait depuis Dilbeek et descendait jusqu'à la Seine.
Pas le moulin avant, mais les moulins, c'était un moulin en l'eau. Donc vraisemblablement, on avait plusieurs moulins. Donc à Molenbeek, oui, c'est là. Rue du ruisseau, Beekstraat, c'est le Molenbeek. Hein. On voit le tracé du Molenbeek. Donc Molenbeek était connu comme un lieu de pèlerinage pour les malades, qui, ou bien l'épilepsie, ou bien les gens qui étaient spasmatiques et soi-disant l'eau de la source originale de Molenbeek qui étaient des minéraux ou des métaux, ils ont l'influence sur le cerveau et ils calment les patients.
Au bout de la rue, nous arrivons rue des Cœurs. Allez, tournez à droite. Avec cette révolution industrielle, il y a une série de vagues d'immigration successives. Donc Molum a toujours été un grand melting pot, vague après vague. Des gens du monde entier s'y sont installés.
Il y a eu des migrations, mais les premières migrations étaient flamandes et wallonnes. Et par la suite, il y a eu les autres migrations européennes, puis nord-africaines et tout le reste. Quoi.
Moi, j'ai vu l'une vague après l'autre. J'ai vu la vague du sud de l'Europe pour les Italo-Siciliens, les Espagnols, les Grecs. Cette vague est passée fin des années 70.
La population maghrébine est arrivée après, est devenue à un moment donné majoritaire. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus remplacée par des gens de l'Est et des gens de l'Afrique noire. Donc ça, c'est un gros changement.
Et je pense que ça n'a pas vraiment changé. Les migrations ne sont pas les mêmes. Ça continue à migrer. Donc ça bouge. Donc africaines, indiennes, pakistanaises, des gens de l'Est.
Des Polonais ou des Hongrois, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Kazakhstan et tout ce que vous voulez.
Et pas mal aussi de gens du voyage maintenant.
Il y a de plus en plus de Roms. Il y en a beaucoup de la Roumanie, il y en a des Bulgares, des Roms-Bulgares. D'ex-Yougoslavie aussi, comme Kosovo, Macédonie et tous les pays ex-Yougoslaves en fait.
Beaucoup plus de personnes de l'Est, des Roms, des Afghans, remplacent petit à petit les vagues turques, marocaines qui sont pour le moment encore prédominantes. Dominante à Molenbeek.
Donc, type de population, c'est très mixte, beaucoup plus mixte que ce qu'on voit. C'est très peuplé, c'est une population très jeune, habitant sur des superficies limitées, disons.
Au coin suivant, tournez à gauche, traversez doucement la rue des Cœurs et entrez dans la rue Adolphe de la Vallée, sur son trottoir de gauche. Attention, il n'y a pas de plaque indiquant la rue Adolphe de la Vallée.
Il y a une densité de population énorme.
Je dirais que c'est assez typique de Molenbeek, commune de premier accueil. Donc des couches de population arrivent et puis partent.
En fait, ça a toujours été une... Quand je parle du vieux Molenbeek historique, un secteur de migration. En fait, ça a tout le temps été en mouvement.
Oui, c'est ce que je dis souvent. Une marmite bouillonnante, voilà, avec toutes les saveurs et les épices du monde.
C'est vrai, je dirais qu'il y a un vrai brassage. Il y a un vrai brassage.
Et donc pour moi, j'ai toujours aimé ce quartier, voir les gens, ce mélange. Moi, j'aime bien. Je trouve que le mélange, c'est une richesse. C'est tellement important. Nous, on a grandi dans le mélange. Ça ne peut couvrir les mentalités et puis on peut aller que vers l'avant.
Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu plus bruyant. On est plus dans une commune à carrefour international où il y a une grosse mixité de cultures.
C'est un véritable laboratoire. Un laboratoire plein de challenges, plein de défis qui demande une énergie folle parce que cette commune a toujours été le prototype de la base de départ pour aller plus loin dans la société. Donc, une sorte de premier étage, l'ascenseur social. Donc, on est vraiment dans un véritable, je trouve, laboratoire expérimental humain d'une ville en transformation.
Vous arrivez au coin suivant. Vous êtes rue de Ribeaucourt, considérée comme la rue la plus dangereuse de Bruxelles. Enfin, il y a un certain temps maintenant. Allez, faites attention, il n'y a plus de danger. Tournez à gauche dans la rue de Ribeaucourt.
La rue de Ribeaucourt, incroyable. C'était la rue Neuve, c'est la rue de Ribeaucourt.
Il y avait des très chics magasins.
Vraiment, il y a des gens qui vendent des chapeaux, il y a des gens qui vendent du tissus, il y a des couturiers.
Alors une autre chose qui est attractive à Molenbeek, c'est quand même les gens sont des êtres sociaux. Alors il y a quand même un capital social à Molenbeek. Il y a des réseaux sociaux énormes.
Il y a une vie associative, mais vraiment très riche. Et il y a aussi un mouvement artistique et surtout social qui est super important. C'est malheureusement pas mis en avant.
Je pense qu'à Molenbeek, il y a quand même pas mal de choses qui se font vraiment. Il y a plein d'associations féminines. Il y a Daryl Amal, il y a la Maison de la Femme, il y a Varkapoun, il y a autant Solidarité Savoir. Il y en a plein. Il y a la Maison de la Culture aussi, il y a la rue. Il y a Bonne Vie aussi qui organise plein de choses.
Sur votre gauche, au numéro 51, l'ASBL Dar El Amal, la Maison de l'Espoir, qui existe depuis 30 ans. Arrêtons-nous ici un instant devant cette magnifique maison.
Moi, je m'appelle Zakia. Ici, on est à Dar al Amal. C'est une maison d'accueil.
C'est une maison de femmes. C'est ouvert pour les femmes pour qu'elles ne restent pas toutes seules.
Donc, fin des années 70, nous avons démarré Dar al Amal, ce que ça signifie maison de l'espoir. Et on se rend compte, fin des années 70, que c'est à travers la femme qu'on pouvait changer certaines choses dans l'éducation et aussi dans l'approche que certaines populations pouvaient avoir au niveau d'intégration. Donc, on a dit mettre sur pied un travail avec et pour les femmes, mais surtout avec les femmes.
Mais j'ai entendu qu'on est à peu près plus que 200 inscrits, plus que 200 femmes. Avant, je venais comme ça pour être accompagnée parce que je ne voulais pas rester toute seule. Il y a des dames qui viennent ici qui ne sont jamais sorties de leur maison. Et maintenant, je suis en train de donner les cours de tricot.
On a commencé avec des cours d'alpha et puis il y a eu des cours de formation.
Il y a des activités, on donne des cours de français, néerlandais, il y a des ateliers, cuisine, couture, et voilà.
Et des informatiques aussi, les vélos.
Des cours de natation et des gymnastiques. Dans les temps, on était une des premières maisons à mettre sur pied aussi la théorie pour prendre les permis de conduire. Ça, c'était une grosse pas dans l'émancipation des femmes.
Il y a beaucoup de cours ici pour des femmes qui veulent apprendre et qui ne veulent pas rester seule à la maison.
Les femmes sont plus émancipées, donc elles osent plus sortir, déjà venir à Dar al Amal toute seule. C'est très important pour elles.
C'est une maison qui accueille tout le monde. N'importe quelle religion, n'importe quel pays, tout le monde est la même ici. Toutes les cultures, n'importe quelle. Les Africaines, les Turcs, les Marocains, les Vietnamiens, il y en avait aussi. Il y avait toutes les nationalités. On s'entend bien, voilà. Il n'y a pas de différence
qui compte ici. Les religions.
L'idée d'être la même chose tous.
Accrochez-vous à Dar al Amal.
Et voilà. Parce qu'ils vont être entourés plein de femmes. On est tous comme des sœurs ici. Voilà.
Et voilà, ça c'était Dar al Amal, une des nombreuses et belles associations. Allons-y, yallah. Continuons dans la même direction, dans la rue de Ribeaucourt. Et attendez-moi au coin suivant.
Je pense qu'à Molenbeek, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites par les femmes. Vraiment. Donc les femmes ont bien leur place. Mais la place, on la prend, nous.
في أمل في أمل أوقات بيطلع من ملل في أمل في أمل أوقات بيطلع من ملل شوف المي اللي بتنزل عطول عني إني محدود وبغار
أوكي attendez-moi au coin de la rue suivante.
كرمالي نيناتنا منعرف شو صار نيناتنا منعرف شو صار
Une fois au coin de la rue, tournons à droite. Traversons la rue de Ribeaucourt et entrons dans la rue du Jardinier, sur son trottoir de droite.
Mais je dirais que là, vous êtes vraiment dans le quartier historique. Toutes les petites rues sont des rues de village. Quand vous voyez le nom des rues, rue Sainte-Marie, rue Saint-Joseph, rue du Facteur, rue du Jardinier, ce sont vraiment les noms de vieux villages qu'on retrouve là, qui étaient rurales.
Mais moi, c'est surtout les petites ruelles que j'aime bien les voir.
Sur votre droite, au numéro 47, ce bâtiment moderne renferme le Randstad. Et au numéro 47A, la bibliothèque néerlandophone, connue aussi sous le nom de Boekenmolen.
Du côté, derrière l'église, il y a des maisons magnifiques. Moi, j'aime bien regarder l'architecture. Là où j'habite, il y a la rue du Ruisseau, la rue du Marocain, où il y avait des tanneurs. C'est une commune où il y avait plein de petits métiers. Mais je pense qu'il y a plein de choses dans ces quartiers-ci, où il doit y avoir des choses vraiment très, très chouettes et magiques, je crois.
Il y a un côté village très, très proche du centre. C'est l'aspect très villageois et donc du bourg médiéval qu'on sent, surtout ici autour de l'église Saint-Jean-Baptiste. On sent une sorte de circulation de rue plutôt en forme justement circulaire avec l'impression de chemins qui devaient venir de la province qui sont tortueuses et qui donnent un charme fou à ces quartiers historiques locaux.
Vous arrivez au coin suivant, c'est la rue Montmartre. Tournez à gauche, traversez la rue du Jardinier et entrez dans la rue Montmartre. Au numéro 22, de l'autre côté de la rue, vous trouverez le service social et juridique du foyer, le service pour les Roms et une consultation pour les jeunes enfants. Continuons notre chemin dans la rue Montmartre, dans la même direction.
On a développé un service juridique, service social, ça c'est la rue Montmartre. Parce qu'un immigré qui arrive, la première chose qu'il cherche de comprendre, c'est juridiquement, administrativement, où est-ce que je me trouve. Et alors ce service-là a donc vraiment voit toutes les nouvelles migrations qui passent.
Oui, bien sûr. Donc je travaille comme médiatrice interculturelle pour la population rome. Je travaille dans un groupe de 12 médiatrices, turques, marocains, russes, albanaises, chinoises, pakistanaises. Mais on a aussi un service social, spécifiquement pour les Roms, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de Roms qui font appel au service social du foyer.
Alors, au début, c'était surtout une population marocaine. Aujourd'hui, c'est surtout une population Rom. Donc, on suit l'évolution du quartier.
Sur votre droite, de l'autre côté de la rue, vous apercevez une porte verte et au-dessus, une enseigne rouge. C'est la Maison des Cultures et de Cohésion Sociale, un magnifique bâtiment classé. C'est là que nous allons. Attendez-moi devant cette porte. Ok, entrons. Je vous attends au fond du couloir, dans la première cour.
C'est parti, d'accord. Moi, je suis responsable de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean. Et si on veut être encore plus sympa, ça s'appelle la Maison, tout court, ce qui est très chouette. La Maison des Cultures s'est ouverte en 2006. Donc très très souvent, nous poussons à ce que nos visiteurs, nos participants, les gens, les voisins, n'aient pas de problème à rentrer dans le bâtiment, ce qui veut dire que la porte est toujours ouverte. Le mieux, c'est de participer, d'être actif dans une des activités proposées. Mais on peut aussi se détendre si vous avez l'occasion de rentrer dans la cour intérieure. Cette ancienne cour d'école.
Une fois dans la cour intérieure, dirigez-vous vers le fond de la cour. Vous y trouverez un banc, sculpté dans le dernier arbre qu'il y avait dans cette cour. Allez-vous y asseoir.
Ces bâtiments de plus de 6500 mètres carrés au total ont subi 4 grandes phases de transformation. Et ça venait couronner le processus qu'on appelle ici à Molenbeek de réhabilitation, revitalisation des quartiers et à quelques espaces collectifs, dont la Maison des Cultures, sans doute la grosse cerise sur le gâteau. C'était l'idée de pouvoir offrir aux habitants un espace d'échange, de rencontre, de dialogue. Il n'y avait pas encore vraiment d'interaction entre culture et cohésion sociale à ce moment-là.
Tous les alentours de la Maison des Cultures, tout a été rénové.
La partie la plus ancienne, qui est à front de rue Montmartre, date de 1885 et réunit une académie de dessin depuis toujours. Et à l'intérieur, il y a toujours eu une école de jeunes filles.
C'est que c'est une ancienne école ici, et c'est devenu un centre culturel. Par exemple, la salle de spectacle ici, c'était une salle de gym, qui est maintenant une salle de spectacle complètement magnifique.
Quand on voit la Maison des Cultures, comment elle est devenue, qu'est-ce que c'était, et ce qu'elle est devenue maintenant, mais c'est super beau.
Aujourd'hui, nous avons toujours la chance de pouvoir avoir ces deux fonctions. La Maison des Cultures n'est pas une école du tout, mais quand même, elle est quelque chose qui ressemble à un espace qui est entre l'éducatif et l'artistique, donc socio-éducatif ou socio-artistique, c'est comme on veut.
Avec une salle de spectacle, à la fois avec des ateliers pour les habitants, et surtout, c'est quelque chose qui est ouvert vers le monde extérieur. Ça, c'est super important. Donc, on a plein d'artistes qui viennent d'horizons différents, même de pays étrangers. Et je trouve que c'est bien. Ça donne une idée, je dirais, un peu plus large de ce qu'est à la fois Molenbeek dans sa culture et sa diversité.
Notre travail consiste à accueillir le plus de personnes possible, du quartier d'abord, de la commune ensuite. Et l'idée est de pouvoir dire que tout le monde est capable de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. L'idée est de dire qu'est-ce que tu as en toi, mon ami, viens, tu veux faire du théâtre, de la photo, de la danse, de la musique ou toute autre chose. On va essayer de faire quelque chose avec toi. L'idée est vraiment de pouvoir valoriser les capacités expressives de tout un chacun. C'est d'être au diapason de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut susciter entre les deux oreilles de chaque personne qui passe la porte.
Il y a des ateliers de peinture, de danse, de la musique, parfois de théâtre.
Ben Amidou, comédien, baptême, mariage, circoncision, communion, spectacle halal. Salut, dis comment même tu salam alaikum alaikum salam.
Voilà, on entend des applaudissements. Voilà, ça c'est la nouvelle jeunesse de Molenbeek, c'est magnifique. Ok, là on va repartir, par le même couloir. Je vous attends devant la grande porte verte par laquelle nous sommes arrivés. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle. Là, on est à la Maison des Cultures, on se trouve près de la salle de spectacle. Le mur qui jouxte la salle de spectacle, c'est une mosquée. Et j'ai toujours en rigolant, ils se sont mis d'accord avec l'imam pour l'appel à la prière. Quoi. Quand il y a de spectacle, pas de prière. Beau compromis, non? Juste là. Oui, juste là, une grande mosquée, ouais, juste là. Non, je trouve que la Maison des Cultures s'est bien intégrée, je dirais, à tout le tissu associatif et tout le quartier. Ils font un travail vraiment, vraiment magnifique. Nous y sommes. Bon, continuons notre chemin dans la rue Montmartre, dans la même direction. En sortant de la Maison des Cultures, vous tournez donc à droite.
Et donc, des lieux comme la Maison des Cultures, ce sont un peu, ouais, ce sont des fleurs, ce sont des bouffées d'oxygène. On peut tous se retrouver. Et puis, vous le savez, l'art, la culture, le théâtre, bah, ça permet le débat et ça permet aussi de faire avancer les consciences. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et j'espère que les gens continueront à, en tout cas, venir à la Maison des Cultures. J'espère que ça restera très, très longtemps, je dirais, ouais, un temple de la culture ici, parce que c'est super important. Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
Qu'est-ce que j'aime à Molenbeek? Il y a un capital culturel. Objectif, non, c'est subjectif. Au niveau des personnes, il y a une richesse culturelle de différents types. Il y a une créativité dans plusieurs personnes. Ce n'est pas par hasard que le film Le Baron a été fait ici, à mon avis. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, il a très bien compris la réalité. Moi, je l'ai aimé beaucoup, ce film. Mais il a très bien compris ce qui vit à Molenbeek, et ça, c'est typique.
Une fois au bout de la rue Montmartre, vous tombez sur la rue du Presbytère. Tournez à gauche, traversez la rue Montmartre et continuez votre chemin dans la rue du Presbytère, sur son trottoir de gauche.
Alors avant de commencer, il faut que je vous explique un truc fondamental. Il faut que je vous parle des barons. Pas les aristos et tout ça, hein. Les vrais barons. Et pour comprendre un baron, il faut comprendre sa philosophie. Alors écoutez, c'est très simple. Bon, pour les barons, tout homme est envoyé sur Terre avec un nom bien précis de pain, différent pour chacun. Après avoir dépassé ce nombre, tu meurs. C'est pour ça que les vieux sont en maison de retraite. Ils tricotent, restent assis, dorment. Parce qu'ils savent qu'ils sont au bout du compte. Et que dans deux ou trois pas, c'est terminé. Enfin bref, ce que personne ne sait, c'est que chacun a son propre compteur. Et que chaque pas compte. Et nous, les barons, on le sait dès le départ.
C'est quoi?
Un klaxon.
Ça, je sais. C'est qui?
Ça, c'est une Peugeot, ça.
Vas-y, laisse tomber.
Nous arrivons au parvis Saint-Jean-Baptiste. Alors, ici, écoutez-moi bien. Vous allez traverser prudemment, droit devant vous, la rue de Ribeaucourt. Et vous allez vous engager sur la place du parvis. Mais pas trop loin, jusqu'à la hauteur du troisième arc. Pieds, les numéros des emplacements des maraîchers. Et plus loin, si le marché n'est pas là, vous apercevez sur votre droite, au pied du troisième arbre, un banc. Ouais, il n'est plus là. Bon, vous pouvez donc vous asseoir debout.
Madame, pas oublier les fraises, aujourd'hui c'est la fête.
Le marché de Molenbeek, c'est une institution. On dit que plus de 15 à 20 000 chalands viennent sur le marché du jeudi matin à Molenbeek qui joint les deux grandes places.
Le centre de cette place communale, toute la rue Comte de Flandre, tout le long jusqu'au parvis, c'est tout le parvis, c'est derrière le parvis, tous les espaces sont pleins, pleins, pleins.
Et quand tu vas au magasin, tu regardes le prix, hein. Et là, le blanc, il coûte plus cher qu'un bouteille bleue.
S'il y aura quelqu'un qui vient chez moi et il veut voir Molenbeek, je les emmènerai le jeudi matin pour aller avec eux au marché.
Il a changé de couleur, maintenant il est plus épicé, puis épice aux saveurs du monde, dans une marmite bouillonnante.
Oh là là, ça fait chaud aujourd'hui, oh salade.
Il y a même deux marchés, un le jeudi, l'autre le dimanche, qui s'y tiennent. Mais c'est surtout celui du jeudi qui est connu et qui est extrêmement couru par une clientèle venue non seulement de Molenbeek, mais aussi des communes environnantes.
Et si jamais vous êtes ici les jeudis à un matin, vous avez fait un vraiment dépaysement.
Et c'est surtout le feeling, l'atmosphère qui crée le marché du jeudi matin.
Et vous avez l'impression que vous vous retrouvez à Casablanca ou à Rabat, ou en tout cas certainement pas à Bruxelles. C'est génial parce que les prix sont moins chers encore qu'à la gare de Midi, évidemment moins chers que où vous voulez à Bruxelles.
Parce que c'est un marché formidable, je crois que c'est le plus grand marché de quartier qu'il y en a à Bruxelles. On peut trouver du tout à de très bons prix.
3 bottes, 3 euros. Vers la fin du marché, les prix sont tellement bas que pour quelqu'un qui a une entrée quand même pas trop haute, ça lui donne quand même la nourriture à un prix assez abordable.
Ça, c'est le grand avantage d'habiter ici. On peut vivre vraiment à un très bas prix. C'est formidable ce qu'on trouve.
On y trouve tout ce que vous voulez. Des petites culottes affriolantes, triturées par les dames voilées. C'est toujours une très belle photo à prendre. Vous avez tous les légumes, tous les fruits que vous voulez. Vous avez des textiles de maison, des nappes, des toiles cirées pour vraiment, je vous dis, beaucoup moins cher. Toutes les épices, le monde, les olives, les machins. Vous trouvez tout ce que vous trouvez sur un étal à Casablanca.
Les artichauts, c'est 8 pour 3 euros. Les pavons, c'est la même chose. Il y a 3 marques. Les tomates 1,95€, les concombres 1€. Pour nous, il y a pas assez, nous le vendons en bonne qualité ici pour venir les clients pour acheter tout ça.
C'est un bon marché ici à Molenbeek.
Oh, je vais presque chaque semaine. Mais c'est vraiment un marché marocain. C'est pas comme le marché Bara au midi, la gare du midi.
Ce marché est vraiment, vraiment à visiter. Le bruit, le son que vous entendez de cette masse humaine. Il faut s'arrêter, fermer les yeux et rêver un peu parce que vous voyagez tout seul. Plus le fait que vous êtes dans une ambiance extra, quoi, très bruyante, mais chaleureuse et un peu excitante en fait. Une sorte de houle qui excite à peu près tous les sens. Vous sortez assez dynamisé de ce marché à Molenbeek.
Ok, allons-y. Retournons sur nos pas, vers la rue de Ribeaucourt. Vous apercevez maintenant sur votre gauche un passage pour piétons. Juste après ces petits poteaux. De l'autre côté débute la rue de l'école. C'est par là que nous allons aller. Traversez et attendez-moi de l'autre côté. Ok, maintenant continuons notre chemin dans la rue de l'école. Bon, pas de plaque, mais maintenant vous avez l'habitude. Au numéro 76, c'est le Vaartkapoen. Restons ici un instant.
Le Vaartkapoen, c'est ce qu'on appelle le centre communautaire des néerlandophones, le gemeenschapscentrum.
Alors le Vaartkapoen, ce sont aussi des néerlandophones, Vlaamstalig, et ils ont une vie culturelle et sociale importante. Pourquoi ? La vie des gens les régit par quoi ? Ben par des fêtes, par toute une série de choses. Il n'y avait pas de lieu pour des fêtes. Et le Vaartkapoen offrait cette possibilité. Moi, par exemple, je me suis marié au Vaartkapoen. Mon mariage s'est passé au Vaartkapoen. Le Vaartkapoen n'a pas bougé. Il est encore là. Ok. Continuez votre chemin dans la rue de l'école. Dans la même direction.
Quand il y avait des activités, c'était plus des activités festives. C'est une maison qui fait aussi plein de choses. Il y a une salle, je sais qu'il y a souvent des fêtes qui se font.
J'ai fait longtemps le bénévole au Vaartkapoen, donc avec les femmes qui ne savent pas lire ni écrire, et moi j'allais avec eux au musée.
Traversez la petite rue Saint-Joseph et continuez votre chemin dans la rue de l'école. Nous arrivons au coin suivant, celui de la rue de l'école et de la rue Bonnevie. Sur votre droite, de l'autre côté de la rue, le parc de Bonnevie. Un parc créé par les habitants, pour les habitants. Arrêtons-nous ici un instant. Hey, restez ici, j'ai pas dit de traverser. À la rue de l'école, il y avait tout un petit parc. Un parc, ça ressemblait à un parc intalu. On allait jouer avec des petites balles en plastique avec nos copains de l'époque.
J'ai vu changer toute la zone du métro. Donc finalement, rue Bonnevie, là où ça avait été démoli. Donc un des deux côtés, c'était clôturé par des plaques de béton. Et donc c'était un train à l'abandon. Il restait un petit îlot de maison au coin de la rue de l'école.
Nous nous sommes créés dans les années 70, au moment où une grande partie du quartier a été cassée parce qu'on voulait créer le métro.
Un jour, donc la maison de quartier qui était en face, il n'y avait pas d'espace de jeu pour les enfants. Ils ont décidé de lever les plaques de béton et de commencer à aménager le terrain en plein de jeu.
Et donc, ce terrain étant vague, on s'est dit, voilà un endroit où des enfants pourront jouer en sécurité.
Et donc, pendant 10 ou 15 ans, les jeux ont été construits uniquement par les jeunes, tout à fait illégalement. Mais c'est de là qu'est né aujourd'hui le fameux Parc Bonne Vie. C'est de l'initiative donc, d'habitants et de jeunes du quartier qui voulaient se faire un espace de jeu pour leurs enfants.
Ok, allons-y. Nous allons traverser la rue de l'école sur le passage piéton qui est à votre gauche. Une fois de l'autre côté, continuez tout droit dans la rue du Facteur.
Et cette commune a longtemps été stigmatisée. Longtemps. Longtemps, très très longtemps. Avec Sharia Belgium, avec les, ce que j'appelle les rois mages, avec toute une série de choses. Mais c'est une minorité.
Et que la phobie, on pointe toujours Molenbeek du doigt comme c'est un quartier de délinquants, et c'est pas vrai.
Ils ont une étiquette, quoi.
Finalement, c'est nous qu'on paye le pot cassé. Le commerçant qui veut gagner une tartine, le moindre pépin, Molenbeek a tronçon, Molenbeek si.
Sur votre droite, les flics, enfin le commissariat de police. Avant, c'était pas le plus sympa du monde. Enfin, aujourd'hui, les choses ont heureusement un peu changé.
Parce que c'est pas parce qu'une petite minorité qui fait la délinquance qu'on se focalise seulement sur Molenbeek.
Et souvent, malheureusement, dans la lorgnette où la presse ne met en avant que sur ce qui fonctionne pas. Je veux dire, presque comme dans un couple. Pas toujours honnêtement équitable. Il y a des moments où elle stigmatise. Il y a des moments où elle veut montrer le bon exemple. Elle est un peu trop paternaliste, à mon sens.
Pour un BMW, Romeo Mike Lima, 549.
Au coin suivant, vous arrivez rue du Comte de Flandre. Tournez à droite.
Et c'est Molenbeek, on met le point dessus. C'est normal que les gens, ils ont raison, ils ont peur.
Traversez la rue du Facteur et continuez votre chemin dans la rue du Comte de Flandre.
Malheureusement, ça nous pend au nez, c'est ce que je dis toujours. Je ne suis pas suédois, ça se voit à ma tête. Et puis tout d'un coup, quand tu as une émergence artistique, socioculturelle ou autre chose, on se dit, il vient de Molenbeek, c'est extraordinaire. Ben oui, oui.
De l'autre côté de la rue, vous pouvez voir l'entrée du métro Comte de Flandre. Une fracture dans le tissu urbain de la commune. Mais on en reparlera plus tard.
Je t'ai trouvé une place en or à la Stip.
Oui, il y a des difficultés, mais j'irai comme partout. Il y a des problèmes, faut pas les nier. Hein. Oui, il y a des problèmes, mais fatalement, il y a d'autres arrivants, d'autres populations. Mais c'est propre à d'autres communes aussi.
C'est si good. Ça veut dire c'est si bon. Une bonne vue chez Gaston. Xegeda, c'est bon.
Passez les escaliers de la maison communale, traversez la rue devant vous et entrez sur la place communale. Je vous attends au centre de cette belle place.
Ça veut dire c'est si bon, une bonne queue chez Gaston. Et c'est que t'as c'est bon, t'es si good. Ça veut dire c'est si bon. My darling, c'est si bon. My darling, c'est si bon. My darling, c'est si bon.
Ok, nous sommes au centre de la place. Restons ici un instant.
La place communale, par contre, a toujours été une place de parking ou de petit marché très convivial.
Alors, sur la place de l'hôtel de ville, on allait surtout, nous, avec ma grand-mère, au marché pour faire les courses. Il y avait des braderies, il y avait, je me souviens, pendant le carnaval, il y avait des kermesses, il y avait des petites choses comme ça, quoi.
C'est là qu'on allait chercher le lait, de l'huile abattue, etc. Il y avait des vieux fermiers du Brabant flamand qui venaient vendre leurs produits là. Et c'est là qu'on allait avec mon papa, souvent.
C'est une vieille place du début des années 1900. C'est là, le carré typique. Oui.
La place communale, je trouve que c'est assez joli. Donc c'est l'ensemble est une très grande unité.
C'est une place encore relativement homogène quand on voit l'architecture, qu'on peut qualifier grosso modo de néoclassique, extrêmement répandue un peu partout à Bruxelles. C'est évidemment un endroit emblématique, d'abord parce que la maison communale s'y trouve, a été donc inaugurée en 1889, il y a tout de même un certain nombre d'années.
Ce qui me frappe, m'a frappé dès le début, c'est très modeste. Moi, je ne trouve pas exceptionnellement beau, mais c'est beaucoup trop petit. Donc.
Bien, allons-y. la maison communale dans votre dos. Poursuivez votre chemin vers le coin droit de la place. Traversez la petite rue qui entoure la place et engouffrez-vous dans la petite rue piétonnière. C'est la petite rue du Prado.
Pour acheter, c'est très très bien parce qu'on trouve sous la main tout ce qu'on veut. Et puis pour se promener aussi, il fait bon, il faut. Surtout quand il fait beau, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. À marchander, oui, bien sûr. Et c'est, surtout, c'est une commune où on peut marchander, pas comme ailleurs. Et il y a toujours moyen de marchander.
Une fois à la fin de la rue piétonnière, vous êtes chaussée de gants. Arrêtons-nous ici un instant.
À la chaussée de gants, il y avait le cristal. Et puis, à la rue Prado, là on avait le cinéma, c'était le Kinox. J'ai appris plus tard que le Kinox au début du siècle, et qui était un opéra, qui s'appelait le Prado. Et un peu plus loin, on avait le Forum. Et là, je me souviens, j'ai été voir les 10 commandements avec mon père. 3 cinémas de quartier. Imagine, pour une commune comme ça, on était quand même vachement bien lotis, hein. Voilà.
Ok. Allons-y, tournez à gauche dans la chaussée de gants et attendez-moi au coin suivant.
À la chaussée de gants, au départ, hein, ce n'était qu'avec des magasins de chaussures.
Un endroit commercial, mais très d'une certaine classe. Donc, c'était l'endroit où on sortait au cinéma, c'était le shopping.
Des gens qui venaient d'Anderlecht, de la rue Haute, de partout à Molenbeek pour venir acheter leurs chaussures chez Dijkman. Il y en avait beaucoup là, Molenbeek. Hein. Il y avait de tout. Hein.
Avant, les belles artères commerciales, c'était la rue de Ribeaucourt, rue Comte de Flandre et chaussée de gants. Et maintenant, ça a tout à fait changé.
Et alors, il y avait même un magasin. Qui ne vendait que des pantoufles, et on avait beaucoup là.
C'est vrai qu'on n'a plus les maisons haute couture, que ce soit les magasins de marque et tout. Mais la diversité des gens qu'il y a, c'est impressionnant.
Il y a toutes les nationalités des magasins, ils sont bien. Pour les quartiers, ils sont bien, ils sont chics.
Voilà, nous sommes de retour rue du Comte de Flandre. Traversez rue du Comte de Flandre et attendez-moi de l'autre côté. Ok, une fois de l'autre côté, tournez à gauche et marchez sur cette petite place en direction de cette façade et sa grande fresque molenbeekoise. Vous voyez ces blocs de pierre au sol? Allez vous asseoir sur le dernier de ces blocs, celui qui est plus près de la fresque. À la droite de cette fresque, ce grand bâtiment abrite le restaurant social Les Uns et les Autres.
Voilà, moi je suis le coordinateur du restaurant Les Uns et les Autres. Donc l'endroit, ben voilà, il s'appelle Les Uns et les Autres parce que justement, bon, on essaye en fait de rassembler des personnes d'origines différentes, de cultures différentes, de langues différentes, et on essaye de les rassembler ici et qu'ils aient l'occasion parfois de manger ensemble, de se rencontrer, de se parler. Et ce sont des personnes qui ne se rencontreraient pas ailleurs et dans d'autres circonstances. Donc on a en même temps ici un public social du quartier, mais aussi toutes sortes d'autres personnes qui s'intéressent au quartier, qui travaillent dans le quartier, qui visitent le quartier, qui découvrent aussi ce qu'on fait de bien ici à Molenbeek. Donc ici, on veut faire de la bonne cuisine, en fait. On a même la prétention de faire certains jours de la gastronomie, tous des produits frais, jamais de surgelés, tout fait maison. On a cette prétention de faire un petit peu un restaurant social de luxe, mais à des prix à partir de 3,50€ le menu. Et voilà, donc nous, on essaye aussi pas seulement de faire à manger ou de donner à manger, mais c'est plus aussi de faire ici un espace de rencontre. Et alors, en fait, l'autre objectif, c'est qu'on fait de la formation professionnelle, mais plutôt de l'insertion socio-professionnelle. C'est un projet qui est très riche dans ses objectifs, très, très diversifié. Donc les menus, il y a pas mal de cuisine française, cuisine familiale aussi, cuisine du monde aussi. Bon, on fait aussi bien le chicon gratin que le couscous, la paella, le veau marango. Et ce qui est très vraiment agréable dans ce projet, c'est que parler de la bonne cuisine, en général, ça rassemble tout le monde. C'est un projet passionnant parce que c'est dans un très beau cadre. On a un superbe bâtiment avec une façade classée et on est en plein cœur de Molenbeek, dans un petit îlot préservé, au calme, et avec un beau jardin, une terrasse et un petit jardin potager. Donc c'est un petit endroit secret à découvrir. Bon, on a la chance de se trouver ici. Et en fait, c'est un ancien dépôt de tabac, Aja. D'ailleurs, quand on regarde de l'extérieur et qu'on se penche un peu tout au-dessus sur le fronton de la façade, on voit les lettres bâtiment Aja qui sont encore là, donc les tabacs Aja. Et en fait, c'était un entrepôt qui était lié à l'activité du canal et ça attire pas mal de touristes, des gens qui s'intéressent un peu à l'histoire du quartier, qui s'intéressent à l'histoire industrielle. Mais bon, ça fonctionne surtout, je dois dire, par le bouche à oreille. Donc,
Ok, allons-y. Retournons sur nos pas. Retournez-vous et marchez vers la chaussée de Gand, d'où nous sommes venus.
Les Uns les Autres, c'est très très bon et c'est bon marché aussi. On a été plusieurs fois manger là. Une très très bonne nourriture, elle est saine et il fait bon de manger là.
Une fois de retour au coin de la rue du Comte de Flandre et de la chaussée de Gand, tournez à droite et traversez la rue du Comte de Flandre. Attendez-moi de l'autre côté. Ok, maintenant tournez à gauche et traversez prudemment la chaussée de Gand. Attendez-moi à nouveau de l'autre côté. Ok, une fois de l'autre côté, continuons notre promenade dans la rue Brunfaux. Sur votre gauche, vous longez les logements sociaux des années 80 ou 90. Pas une très grande réussite, je dirais.
Alors, bon, oui, où j'ai vu une forte évolution, c'est les logements sociaux. Rue Brunfaux, ça a très fort changé. C'était avant souvent des quartiers, donc deux pièces, etc.
Si on parle du logement moderne, c'est une catastrophe, hein, parce que c'était des grands buildings. C'était des boîtes où on casait les gens d'une manière presque industrielle.
J'aurais préféré quand même les anciennes maisons, quoi. Pas les trucs modernes qu'il y a maintenant. À l'intérieur, c'est catastrophe, c'est petit, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, quoi.
Vous arrivez à la hauteur de la place Brunfaux, qui apparaît sur votre gauche. Vous pouvez y voir le dos des anciennes brasseries Allemands, encore une trace du passé industriel de Molenbeek. Aujourd'hui, ça s'appelle le Cheval Noir, un ensemble d'ateliers et d'habitations pour artistes. Au coin de la rue suivante, vous êtes rue Fin. Traversez la rue Fin, droit devant vous. Une fois de l'autre côté, tournez à droite dans la rue Fin.
Par contre, ce qui se construit aujourd'hui, que ce soit dans le cadre des contrats de quartier, par la commune ou par la région, etc., je le trouve beaucoup plus intéressant parce que c'est des constructions à l'échelle humaine, c'est des constructions qui s'intègrent très bien dans le paysage urbain du quartier et qui sont ouverts sur le quartier.
Vous longez maintenant le bâtiment baptisé L'Espoir, qui se trouve de l'autre côté de la rue. Difficile de le rater.
Le bâtiment tricoloré en bois. C'est une chouette aventure. C'est surtout les habitants, les futurs propriétaires qui sont mis ensemble. Ils se sont dit, nous, on a envie de vivre dans un univers correct, chouette, qu'on peut concevoir nous-mêmes, mais on n'a pas beaucoup de sous.
Et où, avec l'aide et le soutien de la maison de quartier de la rue Bonnevie, ils ont construit les maisons, ces maisons passives.
Un joli bâtiment contemporain, bois coloré et avec un beau petit jardin potager derrière.
Traversez maintenant la petite rue Saint-Martin et continuez dans la rue Fin.
À l'époque, Molenbeek était plein de petites impasses. Rue Fin, il y en avait une d'un côté où là maintenant il y a un parking ouvert. Et en face, là où entre autres est le jardin urbain, il y avait aussi. Là, c'était deux ou trois maisons l'une derrière l'autre en profondeur. C'était vraiment un quartier d'impasse.
Le jardin urbain. Arrêtez-vous et jetez un petit œil par la grille.
Oui, mais de plus en plus, il y a des jardins urbains. Donc il y en a à la rue Fin. Alors ils font tout un travail justement pour investir ces gens au niveau de l'environnement.
C'est aussi l'ASBL La Rue qui est responsable. Si on passe, on doit. Si la porte est fermée, bon, c'est dommage. Mais si la porte est ouverte, on doit y entrer.
Ok, allons-y. Continuons dans la rue Fin, dans la même direction.
Je trouve qu'il y a un souci. On replante des arbres, même dans des rues populaires.
Si, c'est important pour le...
Oui,
mais c'est pas des bacs de fleurs, hein, c'est pas ça. C'est vraiment des arbres. Quand j'y habitais, il n'y en avait pas du tout. Non, les gens ne s'occupaient pas du tout de ça.
Une fois au bout de la rue, nous arrivons rue Rancefort. Traverser la rue Rancefort... Et une fois de l'autre côté, tournez à gauche.
La rue Rancefort, pour moi, c'est la rue historique de Molenbeek. La rue avec sa grande histoire, je pense que c'est une des plus anciennes. Rue où se trouvait d'ailleurs la fameuse ferme qui était juste devant les murs de Bruxelles, en face.
Rancefort, en néerlandais, on dit Rancefort. C'est un mot néerlandais, c'est la ferme du Rancefort.
Les origines se trouvent là, hein, les plus vieux quartiers de Molenbeek. Il faut savoir qu'au moment de Louis XIV, je remonte, le maréchal de Villeroy a bombardé et détruit la grande place de Bruxelles. Ses canons se trouvaient à la ferme Rancefort et de là tiraient un peu plus haut vers la ville.
Vous arrivez à la hauteur d'un grand portique et d'une grille en fer forgé. Au numéro 27, vous êtes à la fonderie, anciennement la compagnie des bronzes. Si la grille est ouverte, entrez, marchez jusqu'au fond de la cour et attendez-moi là, au pied de l'arche, en brique. Si la grille est fermée, restez ici, attendez-moi quand même. Je serai pas long.
C'est un quartier qui a été ce qu'on appelait le petit Manchester. En ce sens, il a démarré l'industrialisation à Bruxelles et on peut même dire dans la Belgique. Donc c'est ici qu'a démarré l'industrie.
Par exemple, à la rue Rancefort, hein, il y avait une des grosses industries, la Compagnie des Bronzes.
Qui était donc une entreprise qui fabriquait, dans un premier temps, des statues, donc du bronze d'art. Une industrie qui a commencé en 1840 à peu près, et qui a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps, parce qu'ils se sont reconvertis dans tout ce qui était bronze d'ameublement. Par exemple, fabrication de lustres, planches de portes, quincaillerie qu'on met sur les meubles. Ils ont été les premiers, par exemple, à développer des lustres électriques. Beaucoup de lustres du Théâtre de la Monnaie, aujourd'hui, viennent d'ici, le Palais Royal vient d'ici. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un lent déclin, il faut bien dire. Et la dernière coulée a eu lieu en 1974.
Ok, nous sommes au fond de la cour. Restons ici un moment.
Le projet de celui qui a été le plus initiateur de la fonderie, c'est Guido van der Hulst, c'était rendre aux habitants du quartier leur mémoire et tout leur passé industriel. Très beau projet.
Donc, la fonderie est née d'un petit groupe de passionnés qui se sont rendus compte, en fait, au début des années 80. Ils se sont dit, ben, au fond, ce lieu emblématique qui était cette fonderie de bronze d'art, qui s'appelait donc la Compagnie des Bronzes, fort délabré malheureusement déjà, ce serait intéressant de le sauver pour en faire justement un lieu où on pourrait restituer un peu ces éléments du passé, un lieu... Donc de mémoire ouvrière pour les mettre à disposition des jeunes surtout, mais aussi des habitants actuels. Et donc la communauté française a acheté le site. Et en 2001, on a démarré une première partie de ce que l'on appelle nous autres donc le musée bruxellois de l'industrie et du travail. Quand vous visitez l'endroit dans le site extérieur aujourd'hui, ben, il reste une ruine en quelque sorte de la grande halle de coulée dans le fond. Sa dimension, il suffit d'y rentrer, on se rend déjà bien compte de la dimension et de l'importance que ça avait. Et on trouve à droite en rentrant dans la cour la halle des, ce qu'on appelle la halle des tourneurs, dans laquelle nous faisons maintenant nos expositions, et c'est la seule halle qui a été rénovée pour l'instant. Et les autres bâtiments ont dû malheureusement être démolis parce qu'ils étaient en trop mauvais état. Il en reste des traces physiques au sol, sur lesquelles nous avons exposé pour l'instant quelques machines, disons, on appelle ça un peu le jardin des machines, quelque chose.
Quand on voit la fonderie, c'est magnifique comme endroit. Je trouve que c'est un endroit magique, et malheureusement les gens ne le connaissent pas.
Bien, allons-y. Retournez à l'entrée de la fonderie et attendez-moi là.
Oui, évidemment, c'est un haut lieu de Molenbeek, mais tous les Molenbeekois ne le savent pas. À l'époque, c'était le lieu central, puisque c'était l'endroit où on fondait, où on avait même livré énormément de statues ou de grilles métalliques au niveau mondial, même aux États-Unis, le Nouveau Monde. Donc, c'était une place centrale.
Oui, encore le buste d'Abraham Lincoln, qui est encore là. Donc, ça partait d'ici pour aller aux States, via le canal. On a fabriqué ici les portes du zoo de New York. Et donc, je trouve ça magnifique que ce soit parti d'ici.
Nous y sommes, de retour rue Rancefort. Sortant de la fonderie, tournez à droite et continuez votre chemin dans la rue Rancefort.
Ah ouais, ça.
Ah oui, il y avait.
C'est autrement que maintenant, hein, maintenant, il y a même comme rue Rancefort, vous connaissez.
Ça, c'est la rue Rancefort.
Mais là, le temps, on se taillait.
Mais disons, dans notre jeune temps, il n'y avait pas tellement de dancing. C'était plutôt dans des bistrots de rue, aller du quartier, qu'on allait s'amuser, faire des shoebox avec la musique et on écoutait les disques de ce temps-là. Hein.
Rue Rancefort, il y avait 17 cafés et ça marchait tout.
Rue Rancefort, c'était aussi plein de cafés. C'était le quartier des chiffonniers et des ferrailleurs. Donc c'était un quartier très vivant. C'était un quartier d'Italiens. Il y avait assez bien de Grecs. On m'a raconté qu'aux grandes époques de Dering et de l'Union Saint-Gilloise, parfois la police le soir n'osait pas rentrer dans la rue Rancefort.
Quand il faisait beau, eh bien, les gens, ils allaient s'asseoir à leur porte avec une chaise et ils allaient commérer l'un avec l'autre. Et c'était
bien.
Vous arrivez à la toute petite rue Caille et Allo, du nom des usines spécialistes de la machine à vapeur et de matériaux destinés au chemin de fer. Au bout de la rue, l'entrée du parc industriel de la fonderie. C'est là que nous allons. Attendez-moi devant les grilles du parc. Ok, vous êtes devant l'entrée du parc, qui nous rappelle une fois de plus le glorieux passé industriel de Molenbeek. L'entrée principale, les colonnes et la grande cour pavée évoquent l'usine d'origine. Si la grille du parc est fermée, revenez sur vos pas et faites le tour du parc. Retrouvez-moi à la piste 18 que vous pouvez trouver sur votre carte. Rendez-vous à une autre sortie du parc de la fonderie. Si c'est ouvert, alors entrez maintenant dans le parc.
Allez, allez, monsieur.
monter ses premières petites marches.
C'est le parc de la Fonderie. On est passé par la entrée par la rue Caille et Allot.
Il y avait Caille et Allot qui faisait du matériel ferroviaire. Hein, et donc ce parc est sur ces anciens ateliers-là.
Marcher jusqu'au centre de cette première esplanade, jusqu'au pied de ces trois colonnes.
Le parc même est fait sur base de l'ancienne usine Caille et Allot, ou une partie de cette usine.
Ok. Maintenant, marchez jusqu'au centre du parc, qui est sur votre gauche, vers la deuxième esplanade et ses trois autres colonnes.
Il n'y a pas de pelouse, c'est tout un pavé, même des pavés historiques, ça veut dire qu'ils viennent de Molenbeek, donc c'est des pavés qui étaient ou bien dans les usines ou bien dans les rues du quartier. Donc ça donne vraiment une impression de l'envergure, donc de l'ampleur de cet espace qui était un grand hall, une grande usine à ce moment. C'est pas très confortable pour jouer, c'est pour enfants, mais c'est un endroit de repos, de tranquillité aussi, même de silence. Le centre du parc, c'est très tranquille, c'est très agréable. On n'entend presque rien. Moi, je l'utilise beaucoup.
Une fois arrivé au pied de ces colonnes, tournez légèrement à droite, en diagonale, et dirigez-vous vers le coin de la sortie du parc, là où vous pouvez voir une grille.
Et maintenant, s'il y a quelques mois seulement que toutes les portes sont ouvertes, donc on peut traverser le parc et raccourcir comme ça la route entre la rue Rensfort et la rue de l'Éléphant.
Ok, sortez du parc et attendez-moi au coin de la rue. Ok, nous y sommes. Sur votre gauche, vous trouverez la petite rue Verheb de Kaiser. Sur votre droite, cette grande rue avec des arbres. C'est la rue de l'Éléphant. Pas de plaque comme d'habitude. Hein? Restons ici un instant.
Et le nom Éléphant, mais bon, peut-être c'est une légende.
Ça vient justement, si je me rappelle bien, de ces grosses locomotives qu'on a fait là. Si je me rappelle bien, je ne suis pas sûr de ce que je dis.
Qui était utilisées quand le premier train au continent, de Molenbeek à Malines, parce que la gare du Nord était sur le territoire de Molenbeek à ce moment. Et une des locomotives, c'est l'Éléphant.
Alors la rue de l'Éléphant, oui, ce nom a été choisi pour honorer la mémoire d'une grande entreprise de construction métallique et qui aurait été appelée par le peuple de Oliphant, donc l'éléphant, en raison de sa grande taille.
Alors, sur le coin opposé de la rue, là, un peu plus loin, vous avez la plus grande mosquée de Molenbeek, une des plus grandes de Bruxelles. C'est la mosquée El Khalil. Oui, le Kha, c'est compliqué.
Oui, c'est le coin et c'est une grande partie de l'îlot entre la rue de l'Aunoy jusqu'au coin de rue de l'Éléphant. C'est la grande mosquée. El Khalil, je pense, le plus grand mosquée de tout Bruxelles. Et pour le reste, on doit y entrer pour y sonner une fois pour parler avec le responsable.
Salam, la paix. Mohamed Larossi, directeur de la Ligue d'entraide islamique, fondée en 1985. La première institution qui a vu le jour, c'était la mosquée Al-Khalil. Autour de cette mosquée, plusieurs autres institutions se sont créées. Donc la mosquée Al-Khalil, école Al-Khalil aussi, qui donne les cours d'arabe. Et puis vous avez l'école La Plume, qui assure le programme de la communauté française. Autour de cela, vous avez le comité social. Et puis vous avez le comité culturel aussi, ouvert à tout le monde. Pourquoi ? Parce que la Ligue d'entraide islamique, elle était consciente, elle a tout de suite compris le contexte dans lequel elle se trouve, que le dialogue est une conviction, c'est pas une simple technique de communication.
Ce sont des gens avec lesquels on peut, dans le quartier, on peut travailler, qui collaborent aussi aux fêtes du quartier, aux activités, donc ils ne s'enferment pas sur soi.
Donc la mosquée, comme tout lieu de culte, c'est un lieu public. Il est ouvert à tout le monde et par conséquent, vous avez tous les âges qui sont là. Il y a les hommes et les femmes qui viennent, des musulmans de toute origine. Il y a des Nord-Africains, mais aussi il y a du Moyen-Orient, des musulmans de l'Europe de l'Est, des Albanais, des Turcs, des Africains, et un peu partout. Mais disons que l'espace qu'on a, l'histoire qu'on a, la diversité des membres, la conscience des membres de la Ligue d'entraide islamique et tout ça a fait de nous un centre carrefour qui présente des activités diversifiées. C'est peut-être le plus qu'on a par rapport à d'autres mosquées.
Bon, allons-y maintenant. À la sortie du parc, tournez à gauche dans la rue Verheb de Kaiser et attendez-moi au coin suivant.
Le premier mot qui vient toujours en islam, c'est très facile, c'est salam, la paix. Ça, c'est vraiment une porte d'ouverture qui explique c'est quoi le vrai visage de l'islam. Donc salam, hiwat, ça veut dire dialogue, et ukhuwa, ça veut dire fraternité. Voilà trois mots clés pour schématiser, pour donner une idée de ce qu'on veut faire à Molenbeek. Salam, hiwat, ukhuwa.
Sur votre gauche, des habitations sociales d'un autre genre, imaginées par l'architecte Pierre Blondel.
Alors une autre partie qui concernait la rue Verhebbe de Caisse, où là c'était des immeubles à l'abandon, qui eux ont été aussi là démolis et sur lesquels il y a eu un projet immobilier fait en commun avec la SDRB, une société qui s'appelle Cheval Noir, qui permettait en réalité de développer du logement pour des familles nombreuses. C'était aussi une demande justement dans le cadre de l'action de quartier, parce que ça manquait très clairement, ça manquait très fort dans la zone.
Nous sommes de retour rue Rancefort. Traversez la rue Rancefort et continuez votre route dans la rue en face. C'est la rue Évariste Piron. Sur votre gauche, l'école communale numéro 10 et sa longue mosaïque.
On est dans la rue Évariste Piron et un long mur jaune qui est décoré avec mosaïque. Décoration abstraite donc, qui est faite qu'avec des petits carrés rouges, jaunes, bleus, verts. C'est fait par un artiste ici du quartier.
Traversez la petite rue Saint-Martin, marchez le long de cette énorme tour et continuez votre chemin dans la rue Évariste Piron.
Oui, si, ça va. La tour, c'est pas du luxe, mais bon. La tour, normalement, il devait être déjà démolie parce que quand on voit de l'autre côté, il est à travers, je ne sais pas combien de centimètres, hein, si vous avez fait attention.
C'est vrai que ces tours de logement social ne sont pas ce qu'on a fait de mieux dans la rue. On les a un peu plantées comme ça, et on l'a fait monter sans qu'il y ait toujours l'accompagnement social qu'il faut, l'espace public qui permet de valoriser ça. Un rez-de-chaussée qui n'a jamais vraiment bien fonctionné, on a du vent, on est un petit peu concentré dans une verticalité, tous les problèmes sociaux, et donc c'est évidemment plus difficile à gérer. Pour moi, ce sont des bâtiments qui ne fonctionnent pas bien.
Au bout de la rue, vous êtes quai du Hainaut. Traversez la rue droit devant vous et attendez-moi au bord du canal. Nous y voilà. Restons ici un instant. Vous êtes juste au bord du canal.
Il a aussi une très très belle histoire, hein, ce canal. Les gens ne le connaissent pas assez. Mais c'était un canal où les gens... Parce que vous savez que Molenbeek, c'était une commune très ouvrière.
Un peu plus loin sur votre droite, une écluse rénovée. Elle rappelle l'importance historique du canal dans la ville.
Et donc, on déchargeait le charbon, enfin, tout ce qui venait de d'ailleurs. Là, il passait par les canals et donc il y avait des écluses.
Le canal a été créé juste avant 1830 pour faire le lien entre, d'une part, la Flandre et d'autre part, les zones charbonnières en Wallonie.
En fait, à un certain moment, on a commencé à creuser un canal qui reliait vers l'Escaut, hein, vers le Rupel, hein, Willebroek, etc., et qui allait donc jusqu'à la place Sainte-Catherine. Et puis, peu après l'indépendance, on a creusé un canal vers Charleroi, qui passé dans la partie plus basse, vraiment les marécages de la Seine, le centre de Molenbeek, le canal actuel, pour ramener le charbon et l'acier de la région de Charleroi.
Et autour du canal, se sont installées des industries.
Et c'est comme ça que cette deuxième partie s'est faite à travers la partie la plus basse de Bruxelles et qui a coupé entre Molenbeek-Saint-Jean et la ville de Bruxelles.
Ah ouais, ça c'est une autre affaire. Tu sais, comment je vais t'expliquer ça? Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour dévier tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de transformations à Bruxelles.
Ok, repartons. Le canal devant vous. Tournez à gauche et marchez le long du quai jusqu'au prochain pont. Sur votre gauche, de l'autre côté de la rue, les anciennes brasseries Bellevue.
Et la grande brasserie Bellevue, c'était dans le temps la brasserie de Coste qui est achetée par Bellevue pour faire stocker la gueuse. Maintenant, on voit très bien les trois grandes parties d'une brasserie de gueuse. Le grand bloc à droite, au nord, ce n'est qu'un dépôt donc, où les fûts avec le lambic étaient stockés. La gueuse, c'est le lambic. Le petit bloc au sud, où maintenant on est en train de refaire, on fait des trous architecturalement pour un petit hôtel. Ça, c'était la malterie.
Où donc sera installé un hôtel social, avec d'ailleurs aussi une fonction de formation, de personnel.
Et la brasserie, c'est le grand ensemble, le bloc au milieu, où on voit en haut le cuve spéciale qui est ouverte. C'est ça qu'on appelle brasser à l'air naturel. Donc on n'ajoute pas de la levure, oui. Donc c'est avec la fermentation, c'est la fermentation naturelle.
Je me rappelle encore, bon, c'est vrai qu'il y a des matins où il puait, bon maintenant ça c'est un peu fini, mais je me rappelle encore, c'est vrai qu'il y avait ce trafic, trop de ces péniches qui venaient chez Binge, etc., pour un peu un trafic local pour le canal, maintenant c'est rien, il n'y a même plus moyen de décharger, bon, plus personne ne penserait à ça. Hein.
Voilà, le canal c'est ça pour moi, c'est le fleuve, c'est la Meuse de Bruxelles. Donc voilà. Mais je trouve qu'on l'exploite pas assez. Je sais pas, je pense qu'il y a un potentiel, ça pourrait être un lieu central.
Et donc on se trouve aujourd'hui à un espèce de moment charnier, puisque l'industrie a quand même fortement disparu, que ce soit les industries du bronze, ou que ce soit les brasseries, ou enfin tout ce qui utilisait l'eau. Donc on se trouve à ce moment où on doit un petit peu reconvertir une partie de la zone du canal en zone d'habitat. Parce qu'on constate dans toutes les villes du monde que lorsqu'il y a la présence de l'eau, c'est évidemment un plus.
Mais oui, je pense que le canal, pour nous, c'est plutôt une infrastructure qui doit faire le lien que la division, et qui lie bien sûr aussi de manière nord-sud, créer des liens entre les quartiers est et ouest et centre-ville, Molenbeek, Anderlecht et tout ça.
Sur votre gauche, de l'autre côté du quai du Hainaut, vous passez devant la rue du Cheval Noir. Continuez votre chemin dans la même direction.
Le canal, c'est la frontière absolue qu'il fallait franchir. C'est une frontière mentale où on passait pour aller en ville, que les gens ne traversaient pas.
Le canal est une barrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image du vieux Molenbeek, elle est difficile à redresser. Il y a une barrière psychologique. Il n'y a rien à faire. C'est pas si terrible de venir de ce côté-ci et qu'il y a des atouts de ce côté-ci. Mais on sent bien que c'est une barrière.
Levez les yeux. Vous marchez sous les anciennes grues mobiles ou portiques qui servaient à décharger les bateaux.
Il y avait encore un portique, je crois, chez Benjou et Mas, on voit bien, qui ne servent plus. Parce qu'à ce moment-là, entre autres, les briques qui venaient de Beaume arrivaient par le canal et étaient déchargées ici, au quai du Hainaut. Mais je crois que dans un des deux, même du côté bâtiment, le rail s'est abandonné. Je crois que dans l'autre, il y a peut-être encore la petite cabine de crue, je ne sais, il faudrait que je regarde bien, mais...
Continuez sur le quai du Hainaut et attendez-moi au pont de la Porte de Flandre.
Pour moi, c'est le côté industriel, c'est pas,
Il y a une sorte de poésie autour de ce canal quand tu vois les bateaux qui passent.
Le port, oui, le canal.
Oui, ça l'est autrement que maintenant.
Oui, mais ça, nous, on n'a pas connu, hein, François. Ça, c'est déjà beaucoup.
Ils ont fait ça.
Pourtant, le canal.
C'est une frontière mentale.
Oui, mais ça, nous, on n'a pas connu. Hein.
Voilà, le canal, c'est ça.
Je crois que c'est un peu une image qu'il y a, mais c'est parfois difficile à faire changer cette image. Mais on y travaille.
Voilà, nous y sommes, au pont de la Porte de Flandre. Restons ici un instant. De l'autre côté de la rue, sur votre gauche, commence la chaussée de Gand, que vous avez traversée il y a une vingtaine de minutes.
Oui, qui est la vieille chaussée hein, où passaient les diligences qui rentraient dans Bruxelles avec les portes d'entrée, Porte de Flandre, et Porte d'Anvers et tout ça. C'est très vieux, c'est pour ça qu'elle est sinueuse.
Parce qu'ils ont toujours dit qu'il y a 7 portes qui font le tour de Bruxelles. Porte de Flandre, Porte de Minouf, Porte d'Anderlecht, Porte d'Al, Porte de Namur.
C'est l'ancien hein, de Bruxelles. Hein,
Il y a sept portes.
Il n'y en a pas 8 ou 6. Il y en a 7. Et Bruxelles, les lettres sont marquées. Il y a 7 lettres dans Bruxelles. Il y a 7 portes. Ça, c'est connaître Bruxelles.
Ça, c'est Bruxelles.
Ok, allons-y. Traversez la rue, continuez votre chemin dans la même direction, le long des quais. Attendez-moi de l'autre côté.
Comme ici, au boulevard, ici. Il n'y avait pas de building, hein. C'était des marécages, ici, sur le boulevard, ici,
oui,
où il y a le bâtiment. Il n'y avait que de l'herbe ici, de marécages, et ainsi de suite.
Une fois de l'autre côté, continuez votre chemin sur les quais, dans la même direction.
Et après quelques années, les bâtiments sont sortis comme des petits pains ici sur le boulevard. Je ne parle pas de ceux d'en face, hein, les petites maisons. Hein. Mais ici, de ce côté-ci, tous ces buildings, ça est sorti que par après. Ici, le building, ce n'était que de la verdure ici, sauvage quoi.
Levez les yeux. Sur votre droite, le long du canal, une série d'éoliennes colorées. Comme les moulins de Molenbeek.
Parce que maintenant, on a mis des petits moulins en vent autour du canal.
Les moulins, par exemple, sont une activité de la maison de culture faite avec des jeunes, en tout cas en ce qui concerne les hélices en plastique de Serge Creuse. Et donc, c'était à l'époque 2005, il était question de pouvoir expliquer et aux Molenbeekois et à tous ceux qui voient Molenbeek d'un mauvais œil, de dire que la commune est en train de changer, qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur la commune, et aussi d'expliquer le nom, et pouvoir dire Molenbeek, c'est le ruisseau de moulin ou le moulin du ruisseau, c'est comme on veut, mais l'explication du nom de la commune se trouve là, et les gens sont très contents des moulins, ils veulent les garder alors qu'ils étaient prévus pour 6 mois, donc ils sont là depuis 7 mois.
Sur votre gauche, vous pouvez voir la place Sainte-Marie. Arrêtons-nous ici quelques instants. Vous voyez cet espace? Cette énorme cicatrice à travers le Molenbeek historique? On a tout démoli pour construire le métro, qui passe sous vos pieds. Et de l'autre côté du canal, en face, on a préféré creuser sous les vieilles maisons. Mais ça, c'est de l'autre côté du canal.
Mais disons, d'abord la plus grosse transformation, donc, c'est la fameuse démolition de la zone métro, où contrairement à la rue Locanguien qui est sur le territoire de la ville de Bruxelles, le métro n'a rien démoli, alors que dès qu'on arrivait à Molenbeek de l'autre côté, c'était démolir une zone maximum.
Parce qu'on a démoli toute une zone qui est beaucoup plus large que de ce qu'on a besoin pour le métro.
Tu appuies là, il t'entend. Tu lâches, il t'entend plus. Tu appuies, il t'entend. Tu lâches, il t'entend plus.
Et pour creuser ce même métro, à Molenbeek, on a tout démoli. On a démoli des îlots entiers. On a fait le métro en plein air. Mais on voit que du côté de Bruxelles, on ne voit rien de tout de métro. Tout est fait là, avec le système moderne des années 70, en sous-sol. Et ça marque déjà pourquoi Molenbeek est dans cet état, à ce nom péjoratif, etc. Ça ne date pas de maintenant. C'est historiquement déjà.
Le premier jour. Ton premier client, ça va définir le reste de ta vie au boulot. Tu tombes sur un chieur, ça va être dur.
Ok, allons-y. Continuons notre chemin dans la même direction, jusqu'au prochain pont.
C'était le début même de toutes les organisations sociales qui sont à Molenbeek. La maison Bonneville, la rue, le foyer, les années 70, les gens se révoltaient. Donc ils ne voulaient pas qu'on voudrait démolir tout leur quartier.
Sur votre droite, de l'autre côté du canal, l'ancienne caserne du Petit Château. Depuis 1986, le petit château sert d'accueil aux demandeurs d'asile.
Parce qu'au moment que Molenbeek était plein des usines, mais aussi des travailleurs, c'était le coin prolétaire de Bruxelles, avec très dense, avec beaucoup de bagarres, donc de misère. Et à un certain moment, on a décidé de renforcer la police, la gendarmerie, et de construire une caserne pour la gendarmerie. Ils ont décidé de construire la caserne où c'est maintenant le petit château. La discussion, c'était où est-ce qu'on a besoin? C'est à Molenbeek. Mais quand même, si on construit les gendarmes à Molenbeek, ils sont complètement enfermés entre le canal et ils avaient peur.
De l'autre côté du quai, le Chien Vert, la plus grande réserve d'étoffes en Belgique. Le bâtiment abritait un grossiste en pommes de terre. Mais des frites au tissu, il n'y a qu'un pas. Ok, nous arrivons au pont suivant, celui faisant face au petit château. Arrêtons-nous à la hauteur du passage piéton qui apparaît sur votre gauche, celui juste avant le pont.
Et c'est à cet endroit, un peu plus haut, à l'endroit à peu près où est le petit château, que la Molenbeek, le ruisseau de Moulin, entrait à Bruxelles-Ville.
Ok, allons-y. Traversez ce petit passage pour piéton qui est sur votre gauche, juste avant le pont. Une fois de l'autre côté, continuez votre chemin dans la rue de l'Avenir, qui se situe juste dans la prolongation du pont. Nous sommes dans la rue de l'Avenir, qui nous permettra peut-être un jour de voir le futur de Molenbeek.
Évidemment, si on parle des problèmes de Molenbeek, c'est un problème aussi d'abord social. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de presse qui insistent que les problèmes, que les conflits qui existent à Molenbeek sont dus à la mixité culturelle. Moi, j'insiste que les problèmes, par contre, ont toute une origine du fait qu'il y a des problèmes sociaux.
Sur votre gauche, la SBL Bonn, le bureau d'accueil pour les primo-arrivants.
À mes yeux, et au travers de tous les contacts que j'ai au quotidien avec les gens des vieux quartiers, je trouve que c'est une population fondamentalement sympathique, gentille, accueillante.
Traversez la petite rue Aubrecht et continuez tout droit.
Même si je dis aussi, bien sûr, ça n'empêche pas que nous ayons de gros problèmes socio-économiques, de pauvreté, de chômage, etc., etc.
Traversez maintenant la rue d'Arimont et continuez dans la même direction.
Donc il y a un effort énorme à faire par rapport aux perspectives à donner aux jeunes ici, qui va dans la suite logique de l'éducation, la formation et l'accès au travail.
Je dis toujours, l'image pour moi, aux journalistes, j'ai dit, vous allez voir Anderlecht Standard, vous voyez 100 hooligans foutre la merde. Vous allez dire, je vais plus au foot. Il y en a 100 sur 5000. C'est la même chose. Les autres, comme moi ou d'autres, ne vont pas manifester. On est chouette, on pose pas de problème. On va jamais faire ça.
Je suis bien là. Tu vas me dire quoi? Que je suis plus un baron?
C'est ainsi de la fin du monde, ça.
Traversez la rue de la Prospérité et continuez tout droit. Sur votre gauche, encore un mur d'une belle école. Au bout de la rue, nous sommes de retour sur le parvis Saint-Jean-Baptiste. Traversez la rue juste devant vous. Et attendez-moi au centre de l'esplanade, juste en face de l'église.
Bah, le parvis, c'est le cœur du quartier, du Molenbeek historique. C'est l'âme. Enfin, ce qui me concerne, et pour la majorité, je pense que c'est le cœur, c'est l'âme. Donc c'est vraiment là où c'est la grande place de Molenbeek.
Moi, j'aime bien la place. Parce que la place, d'abord, quand on arrive comme ça sur cette place, on voit, parfois, il y a des gens qui sont assis, il y a parfois des enfants qui jouent. Le cricket, je pense que ça s'appelle. C'est souvent des enfants d'origine pakistanaise, surtout quand il fait beau.
Ok, nous sommes sur l'esplanade. Restons ici un instant.
On voit des femmes assises. Je trouve que c'est une place qui englobe un peu le tout.
Oui, c'est là où tout se fait. C'est là où on joue au foot. C'est là qu'on se donnait rendez-vous. Quand ça se passait bien, c'était devant, sur le parvis. Quand ça se passait mal, on se donnait rendez-vous derrière l'église pour régler le compte. C'est particulier. Ça a toujours existé, ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le parvis, c'était le cœur. C'était le cœur. C'était le lieu de rendez-vous et le lieu des festivités. Aujourd'hui, le jeu du marché. Enfin, voilà. C'est ce que ça représente à peu près pour nous.
Les parvis devant l'église, il y en avait comme une parc avec plein de fleurs et des bancs. C'était très joli. Il y avait des vieilles personnes qui s'asseyaient, des dames avec leurs enfants et jouaient.
Si on trouve aussi plusieurs cafés, donc il y a vraiment un mélange de gens de différentes nationalités.
Le parvis, je me rappelle avant, avec les petites barrières, les bacs de fleurs, les bancs. Au printemps, chaque fois, c'était vraiment comme un petit jardin avec le bus qui passait au milieu.
Le bus est passé, le tram est passé au milieu de la place.
Il y a des vagues de population ou des jeunes, des enfants qui jouent au foot.
Si, avec ce parvis est bien fait. Maintenant, c'est la place de jeu des jeunes pakistanais où ils jouent, alors, je ne sais pas comment c'est, où ils jouent avec des petits balles.
Et alors, on se rend compte que le pivot symbolique de Molenbeek Saint-Jean au centre, c'est le parvis Saint-Jean-Baptiste. Tout commence là et tout se termine là.
C'est évidemment le parvis Saint-Jean-Baptiste, en référence au saint patron de la commune, qui est Saint-Jean-Baptiste.
Et à l'époque, Saint-Jean-Baptiste était sur l'écusson de Molenbeek, vous voyez Saint-Jean-Baptiste. Je crois aussi qu'un bateau, si je me rappelle bien, puisque c'était donc la partie vraiment, la Seine, et puis le canal. Mais je ne vais pas me perdre dans tous les détails parce que vous n'y arriverez pas.
Et cette église au milieu, je la trouve tellement belle parce que, bon voilà, ce sont des gens d'origine étrangère et puis cette église qui arrive magnifique. Moi, j'aime bien cette place, je la trouve superbe.
Et donc, à partir du début 77, je suis arrivé comme curé et responsable des paroisses du centre de Molenbeek-Saint-Jean. C'est assez curieux, c'est un peu le bâtiment symbole. L'avant-dernière église se trouvait à la sortie de la rue du Comte-Flandre. Et ce qui est le parvis maintenant, c'était le cimetière, comme dans les villages avant. Et alors, ils sont parvenus à déplacer l'église sur un ancien terrain d'usine, d'ailleurs, et ont gagné ainsi le parvis.
C'est une église assez récente, elle a été inaugurée en 1932.
Et donc c'est un bâtiment symbole, hein, modern style, dans Bruxelles. L'architecte Joseph Diongre, qui a fait aussi en même temps la radio belge à la place Flaget.
L'église, oui, l'église c'est mon grand favori, parce que c'est la plus unique de Bruxelles. C'est en béton armé, c'est des courbes, il n'y a pas de piliers. La perspective, l'espace en soi est formidable, le jeu de lumière est formidable, ça vaut la peine visiter n'importe quel moment. Et ça, c'est magnifique.
Et qui est surtout renommé pour ses beaux vitraux.
De l'époque, qui sont tout à fait splendides, donc un vrai régal de couleurs lorsque le soleil les traverse.
Et quand il y a le soleil, c'est une merveille.
Même si malheureusement, la plupart du temps, donc en dehors des heures des messes, l'église est fermée, donc inaccessible. Et alors, un dernier élément qui me semble très intéressant, c'est que plus d'une fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé si ce bâtiment n'était pas en réalité une mosquée.
Il ne faut pas oublier que cette église a attiré beaucoup de Marocains, car beaucoup de Marocains, surtout au commencement des années 70, prenaient cette église pour une mosquée. Donc c'était vraiment un pôle.
Donc c'était Nati Diongre, un socialiste dur, hein, qui a construit une église catholique, d'où la majorité pense que cette mosquée, c'est le lieu idéal, comme je trouve, comme centre de Molenbeek.
Ok, allons-y. Vous allez quitter le parvis par le côté droit de l'église. C'est la rue Hélène Reichmans.
Mais c'est vrai qu'il y a une couleur qu'on voit alors surtout dans des lieux comme le marché et dans les mosquées, une couleur maghrébine un peu. Mais c'est vrai aussi qu'un des grands lieux à Molenbeek ici, c'est l'église, encore toujours, où vous voyez des Africains.
Du Rwanda, du Burundi, du Congo, du Cameroun, du Bénin. Il y a des Belges, des Italiens, des Albanais.
Des Polonais ou des Hongrois et tout ce que vous voulez.
Vous longez le mur de l'église. Ok, nous arrivons au coin arrière de l'église. Traversez et prenez la rue qui part légèrement sur votre droite.
sur le trottoir de droite. Je ne sais pas combien de nombres d'associations sont plus nombreuses que les mosquées, il faut le savoir. Hein. Même s'il y a 12 mosquées, je crois, 10 ou 12 mosquées ici.
Toutes les assos qui sont là, et on est plus de 2000 travailleurs, ça fait 350 assos, ASBL, paracommunal, privé.
Donc ça, c'est typique aussi pour Molenbeek. Et donc, les gens, à côté du fait qu'ils peuvent vivre, vraiment, ont aussi ce sentiment de support.
Traversez la rue Anglaise et continuez tout droit dans la rue Doyen Firenze.
Pas que des choses négatives, il y a beaucoup de positifs.
C'est une commune accueillante. Hein.
Je trouve qu'on peut toujours changer des choses, hein. Comme la propreté, on pourra faire un peu d'efforts. En soi, l'esprit de Molenbeek ne devrait pas changer, il devrait rester comme il est, accueillante.
La chaleur humaine, on ne retrouve pas forcément ailleurs. Une petite commune méditerranéenne, presque comme ça, va dans l'esprit.
Au coin suivant, vous êtes de retour dans la rue du Ruisseau. Tournez à droite.
Il y a un mouvement constant, il y a beaucoup d'énergie, de bonne ou de mauvaise, mais bon, en tout cas, c'est de l'énergie et ça fait bouger des choses.
C'est comme une relation passionnelle, ça veut dire qu'il y a des fois où on en a marre, et puis on ne peut pas s'en passer non plus, je veux dire, voilà, c'est comme ça.
Il y a une solidarité dans ce quartier-là que j'aime bien, il y a aussi des difficultés.
Parce que les problèmes, il y a, avec tous ces problèmes qu'ils ont, il y a une créativité, il y a un savoir-faire, il y a une chaleur que j'aime.
Un peu plus loin sur votre gauche, la rue des Ateliers. Traversez la rue du Ruisseau et engagez-vous dans la rue des Ateliers sur son trottoir de droite.
Et moi, je souhaite que la commune puisse aller toujours en avant, que c'est une commune qui mérite et qui a un potentiel pour aller en avant. Et n'oublions pas que nous sommes vraiment au cœur de Bruxelles et au cœur de l'Europe.
Ok, nous sommes de retour dans la rue des Ateliers, pas loin de notre point de départ. Continuez dans la rue et retournez jusqu'à la porte du foyer.
Bah, le foyer, ça, moi je ne suis pas très neutre, c'est clair que je suis employé par le foyer, mais j'y suis venu comme jeune aussi. Oui, je pense que je me suis épanoui en tant que gamin ici, je pense que ça m'a apporté un plus. Je suis convaincu de ça, dans le sens où aujourd'hui j'essaie de transmettre certaines choses aux gamins d'aujourd'hui. Notre mission est de travailler avec eux pour essayer de développer leur esprit critique et de les ouvrir au monde et à d'autres cultures. Et essayer de les pousser vers le sens des responsabilités. Ça, c'est la mission première, mais on ne dit pas ça aux jeunes. Nous, on embellit, on rend ça plus vendable pour les jeunes.
Sur votre droite, le YES, un centre d'entreprise, et le bureau du CPAS.
Moi, je m'appelle Fatima, j'ai 16 ans, pour faire mes devoirs souvent.
Moi, je m'appelle Souleymane, j'habite à Molenbeek, je viens souvent, je viens tous les jours, quoi, quand c'est ouvert.
Asia, on est au foyer à Molenbeek.
Ah, moi, je kiffe l'ambiance, les personnes. Il y a souvent du mouvement au foyer.
Ils viennent à partir de 6 ans, et j'en ai qui ont 22, 23 ans encore, qui sont là. Après, ils rentrent dans la vie sociale, et voilà.
Bon, alors tu passes ici devant la porte numéro 36 de l'atelier du quartier. Il y a les gens qui viennent ici du quartier. Ils font tas de choses en bois. Et naturellement, tu entends ici différentes langues. Et si c'est ouvert, tu peux toujours rentrer. Pas de problème.
Il y a surtout des activités pour les petits, genre foot le mercredi pour les garçons. Il y a atelier culinaire au bar. Pour les grands, il y a des sorties genre Halloween. Il y a le camp pendant les vacances.
Des activités, des jeux, des sorties et plein de choses.
Ok, nous sommes de retour au foyer. Je vous laisse ici. Je crois que vous m'avez assez entendu. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire découvrir ma Molenbeek natale. Merci. Shukran. Et à très bientôt, j'espère. Slam.
On dit souvent que Molenbeek, c'est un quartier très vulgaire et tout ça, mais...
Pas très vulgaire.
C'est vraiment le contraire, en fait.
Vous pouvez venir à Molenbeek, hein, c'est très chaleureux, vous allez vous sentir à l'aise, on est très convivial.
C'est poli quand on parle avec quelqu'un, quand on rencontre dans la rue, on dit bonjour. On dit salam alaikum. Et quand on répond, il y en a qui disent alaikum tissa.
Nous, on est de Molenbeek.
Molenbeek, hein.
Parce qu'il y a beaucoup d'origines à Molenbeek, c'est cosmopolite.
Bien sûr, la Belgique, c'est ma mère, mon père. C'est le père de mes enfants.
Je suis molenbeekoise.
Des trucs qui vont changer, hein. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient propres, qu'ils s'entendent bien. J'imagine Molenbeek dans le futur. Respect, toutes les personnes s'aiment. Je veux qu'on est tous ensemble. Il y a des grandes maisons, des petites. Il n'y aurait pas de gens pauvres.
Molenbeek, c'est magnifique. C'est gentil de nous avoir écoutés. De prendre votre temps pour nous. C'est très gentil. Un petit slam, un petit slam, moi, slam zéro. C'est gentil de nous avoir écoutés.
de Molenbeek.
Prochaine de Molenbeek. C'est Molenbeek.
Oui, Bruxelles, Molenbeek. Nous, on connaît mieux Molenbeek. Bruxelles même, hein, la ville même. Moi, on connaît la ville, hein.
Moi, je connais Bruxelles.
Il y a mon soir, hein, la fois.
C'est un très grand quartier.
Je ne sais pas Molenbeekois, mais ce sera vie.
Ici, vous pouvez trouver tout.
Moi, Molenbeek, le plus que j'ai envie que ça change, j'ai envie que tout le monde s'aime, que tout le monde est ensemble, que c'est comme une équipe.
Belgique, vive les Belgiques.
Moi, je suis fier d'être Molenbeekois. Et je peux répéter encore, je suis très, 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 très fier de Molenbeekois. Molenbeekois, Henzi, mes gars.
C'est mieux que ça soit tous ensemble. C'est pas grave, c'est pas de la même religion, on est tous des humains comme les autres. On est tous pareils, voilà.
Je crois que dans 2100, tout le monde va changer, il y aurait des nouveaux gens et je crois que les maisons, elles vont voler. Peut-être, elles vont voler.
Ah ben voilà, ça aussi c'est... ça aussi c'est Molenbeek, quoi, voilà. Avec tout, ces, tout ce qu'on peut apporter.
Il y a eu un temps, hein, de ça. Il y a mon... Tu n'es pas faire ta sieste, maintenant.